Ouais, aujourd'hui, je voudrais parler un peu du développement de la pratique. C'est une question évidemment qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y a une sorte de progression? Et d'essayer d'évoquer ces progressions possibles ou qui se déroulent dans la pratique, même si ces progressions ne sont pas linéaires. Il arrive que quelquefois, il y a une meilleure sensibilité par moment, un matin et puis l'après-midi, un peu moins de sensibilité. Donc c'est pas juste qu'on passe par le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3 ensuite, mais il y a des fluctuations. Même dans une assise, il se peut quelquefois que par instant, il y a une grande sensibilité, à d'autres moments, il y en a un petit peu moins. Donc j'ai parlé l'autre jour de se mettre en jeu. Et combien c'était fondamental si on veut espérer que la pratique ait un impact sur soi-même, sur sa propre liberté. Mais que dans le fond, c'est se mettre en jeu, ce n'est pas juste une décision. C'est vrai qu'on peut prendre conscience lorsqu'on est dans l'évitement et puis essayer de ne pas nourrir cet évitement. Mais dans le processus méditatif, à nouveau, ce processus graduel, on peut voir qu'il y a une manière, dans le fond, d'être de plus en plus dans l'expérience elle-même. Pour arriver à ce que j'ai appelé l'autre jour, cette présence dotée d'un savoir intuitif, qui est, dans le fond, l'accomplissement de Satipatthana, qui ouvre sur Vipassana. Et ceci, évidemment, implique, pour qu'il y ait cette qualité de présence dotée d'un savoir intuitif, ça veut dire qu'on est intuitif, c'est-à-dire qu'on est complètement dans l'expérience. Et ça n'arrive pas d'un coup, c'est quelque chose qui se développe lentement, dans la mesure où on développe une certaine sensibilité. Donc j'aurais parlé de trois niveaux de développement dans la pratique. Alors maintenant, évidemment, on parle de trois niveaux. Il y a toujours des manières de décrire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que trois niveaux et qu'on peut décrire qu'en trois niveaux. On pourrait certainement voir beaucoup d'autres. Mais ici, pour essayer d'orienter un peu notre pratique, il est judicieux de parler de ces trois niveaux. Je vais les mentionner puis ensuite les décrire un petit peu plus précisément. Le premier niveau, la pratique, c'est un peu comme ceci qu'on commence. C'est tout d'abord, on est pris dans les contenus, nos expériences. On a tendance à être conscient de ce qui est à l'extérieur de soi, les bruits, les bruits des voitures, des oiseaux, des personnes dans la salle, le contenu de nos pensées, penser à l'avenir, penser au passé, etc. Donc on est complètement dans le contenu de nos expériences. On pourrait dire que ceci n'a aucune différence avec la vie quotidienne, habituelle. On est simplement dans ce processus habituel. Et dans un deuxième niveau, ou deuxième temps, commence à se retourner, une expression comme ceci, peut-être pas tout à fait précise, mais on se retourne sur soi-même pour commencer à s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Dans le fond, qu'est-ce qui m'habite? Comment est-ce que je me sens? C'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, donc l'accomplissement de ce cheminement, c'est quand on demeure dans l'expérience, comme je l'ai mentionné l'autre jour, demeurer dans l'expérience. À ce moment-là, il n'y a pas de distance. On est dans une parfaite intimité avec l'expérience elle-même. On est l'expérience elle-même. Donc on a cette progression naturelle, mais c'est important peut-être de le savoir, afin de ne pas rester bloqué à un niveau en pensant que c'est le seul niveau possible ou c'est le niveau qui est souhaitable. On verra surtout pour passer du niveau 2 au niveau 3 comment cette nuance, la compréhension de cette nuance est importante. Donc nous commençons par observer. C'est le processus naturel, évidemment. Nous abordons la vie de cette manière-là. L'éducation est faite, je parle des enfants, hein. Quand nous étions enfants, ben, l'éducation, on apprend le monde en nommant les choses, en observant ce qui se passe autour de nous, c'est en nommer tous les éléments, les animaux, etc. Et évidemment, c'est essentiel. Si on veut essayer de se débrouiller dans le monde, il faut reconnaître ce qui est utile, ce qui est nuisible, ce qui est dangereux, ce qui n'est pas dangereux. Donc en nommant, en discernant tout ce qui est autour de nous, ça c'est le premier stade. Et quand on commence la méditation, on arrive avec cette attitude, attitude habituelle. On pourrait dire que c'est une attitude qu'est l'attitude de la science. Je vais parler un petit peu de ceci pour marquer une nuance. La science qui observe le monde, dans le fond. Je sais que le Dalai Lama plusieurs fois a dit que le bouddhisme est une science de l'esprit, et je crois que c'est un peu problématique, non pas parce qu'il a une mauvaise connaissance du bouddhisme, mais peut-être que il n'a pas toutes les réflexions philosophiques qu'ont fait les philosophes de la science. Peut-être un manque d'informations sur les problèmes que pose la science. Il a souvent entouré dans ses discussions de scientifiques, peut-être un petit peu moins de philosophes de la science, ce qui fait qu'il y a là, pour moi, quelque chose de problématique. On va voir pourquoi. Donc, comme Nicolas l'a mentionné l'autre jour, et comme Patricia aussi, ce qui est évident dans l'enseignement du Bouddha, c'est que ce qui l'intéresse, ce qui le préoccupe, ce qu'il veut transmettre, c'est la souffrance et la fin de la souffrance. Voilà, c'est ça qui l'intéresse. Et cette souffrance et fin de la souffrance, c'est évidemment quelque chose qui nous concerne. C'est un problème existentiel, ce n'est pas un problème sur la nature du monde qui nous entoure. Donc c'est vraiment être en contact avec soi-même. On verra qu'on l'est vraiment au troisième niveau. Donc c'est pas ce que fait la science dans le fond. Elle étudie et décrit un monde en survol sans l'être humain. Je vais décrire un petit peu ce que j'entends ici. Ce sont pas mes propres réflexions. Elles sont surtout basées sur un des grands scientifiques du XXe siècle, Schrödinger, qui a été prix Nobel de physique en 1933. Bon. C'est l'équation sur la physique quantique, donc ce n'est pas un ignorant en science qui a parlé de ce problème-là. Le problème que la science essaye de décrire un monde sans être humain, une sorte de monde absolu qui serait comme ceci, mais sans vraiment que l'être humain soit inclus dans cette description. Et quand il essaye, ben on se rend compte qu'on essaie de lui rajouter une place qui ne joue pas tellement. Ce n'est pas vraiment où le mettre. Il prend comme exemple d'ailleurs, je pense une peinture qui doit être à Vienne, une peinture de Dürer, où il montre que Dürer fait une peinture, où il montre les prophètes, les nobles, les rois, etc. Une magnifique peinture de Dürer. Et puis dans un petit coin à droite, en bas, il s'est représenté lui-même, mais étonnamment, il regarde dans l'autre direction. Tout là. Ces gens font ce regard, etc. Et puis tout d'un coup, le peintre, eh bien, il regarde vers l'extérieur. Et pour Schrödinger, c'était une manière d'exprimer que pour ce peintre-là, il avait aussi évoqué ce fait que dans le fond, nous sommes à l'extérieur du monde que décrit la science. La science, elle décrit un monde sans l'être humain, dans le fond. Voilà, je vous donne quelques citations de ce scientifique parce que ça nous éclaire un petit peu. Il dit ainsi, pour résumer, nous n'appartenons pas à ce monde matériel que la science construit pour nous. Nous ne sommes pas dedans, mais plutôt dehors. Nous ne sommes que les spectateurs. Cette position en retrait, dans le fond, commentaire de Schrödinger, il explique aussi ceci. La seule raison qui a pu conduire à tolérer les contradictions dans la conception du monde, c'est l'ignorance du procédé par lequel le sujet s'exclut afin de poser un connaissable devant lui. On a l'impression que voilà, on a une sorte de monde qu'on peut observer, etc., on le place devant qu'on pourrait observer. Donc quand l'attitude scientifique décrit ce monde sans que l'être humain soit dedans dès l'origine, eh bien on comprend bien pourquoi il n'a rien à dire sur le sens de la vie. Comment est-ce que le monde de la science pourrait dire quelque chose sur le sens de la vie, puisque de toute façon, il s'est mis à l'extérieur. Et même quand il essaye le monde scientifique, surtout dans la philosophie, la physique contemporaine, et bien même quand il essaye de mettre l'être humain, il se rend compte que ça devient un peu difficile. Il n'arrive pas vraiment à lui trouver une place, puisqu'il est parti d'une position où L'être humain n'était pas dedans. Donc c'est important parce qu'on se rend compte que très souvent, on veut aborder les expériences ou la méditation avec cet aspect qui serait un aspect où on pourrait observer d'une certaine manière sans être impliqué dans ce qui se passe. En se rendant compte que d'une certaine manière, à l'heure actuelle, le critère fait que quelque chose soit vrai ou pas, c'est si c'est prouvé scientifiquement. Voilà, ça c'est. On nous dit c'est prouvé scientifiquement, comme si c'était le dernier mot, c'est prouvé scientifiquement, donc c'est juste. Or la science, elle a son monde. Et on remarque que dans le bouddhisme, par exemple, on n'a pas du tout cette, ni dans la tradition indienne, on n'a pas du tout cette vision d'un monde voilà, absolu qu'on essaie d'aborder, de découvrir, puisque dans la tradition indienne, je parle ici aussi du bouddhisme et de l'hindouisme, eh bien, il n'y a pas une vision du monde, il y a beaucoup de visions du monde. Il n'y en a pas une seule qui serait juste. Pour expliquer ceci assez simplement, on pourrait dire, bien voilà, la vision des êtres humains, elle est particulière, elle dépend évidemment des organes sensoriels, constitution de l'œil et autres. Et puis évidemment, bah, eh bien, les dauphins perçoivent un monde complètement différent. Les chauves-souris aussi. On pourrait même regarder les autres animaux qui sont plus proches de nous, nous rendre compte que chaque animal perçoit le monde à sa manière, et il n'y en a pas un qui est juste, c'est le monde des êtres humains est juste, les autres, ils sont un peu fautifs, non? Chaque manière de voir le monde a sa cohérence, il n'y en a pas une qui est la vision juste. Alors, dans la tradition indienne, on inclut les esprits, les êtres célestes, c'est encore beaucoup plus riche comme possibilité, mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas une vision qui serait la vision juste. Et on voit bien que ces visions dépendent déjà du sujet percevant. Alors si c'est un dauphin, ça va être différent. Si c'est un être humain, ça va être différent. Donc il n'y a pas cette prétention à une seule vision qui serait la vision juste. Donc on revient vraiment à cette importance. Qui a la vie même de la personne qui médite. Dans un des sutras célèbres, le Manukya Sutra, je crois que le Bouddha adresse exactement ceci, parle exactement de ceci. Où un moine, dans sa méditation, surgit une question. Il se dit, mais dans le fond, c'est un scientifique, c'est un moine scientifique, même si c'est 5 siècles avant Jésus-Christ, il est scientifique. Il se dit, voilà, est-ce que le monde, est-ce qu'il est éternel ou est-ce qu'il est passager? Est-ce qu'il est limité ou illimité? Donc des questions qu'on pourrait bien se poser, d'ailleurs qu'on n'arrête pas de se poser. Est-ce que le Bouddha existera après sa mort ou pas? Est-ce que la conscience est identique au corps ou est-ce qu'ils sont distincts? Il se pose ces questions. Alors ça le travaille dans sa méditation, ce qui fait qu'à la fin, il se lève en fin de journée, il va vers le Bouddha et puis voilà, il l'interpelle d'une manière un peu cavalière parce qu'il dit, ben voilà, ces questions ont surgi dans ma méditation et si vous ne pouvez pas y répondre, eh bien moi je quitte le monastère. Déterminé. Bouddha dit, ben écoute, est-ce que je t'ai dit, viens dans mon monastère et puis je vais t'expliquer si l'univers il est éternel ou s'il est passager? Et il dit non. Est-ce que tu es venu dans mon monastère et t'as dit, je vais venir dans votre monastère si vous m'expliquez ceci? Il dit non. Il dit, tu vois, ces questions que tu te poses, tu n'auras pas une réponse avant, dans le fond, de mourir. Ça ne sert à rien. Le Bouddha s'intéresse qu'à une seule question, c'est la souffrance et la fin de la souffrance. Il dit, tu es comme un guerrier qui aurait reçu une flèche empoisonnée sur le champ de bataille. Et quand on veut lui retirer la flèche, il dirait non, non, d'abord je veux savoir qui m'a lancé cette flèche, quelle était sa famille, son origine, comment était fait l'arc et la corde, etc. Il dit, ben, ce guerrier va mourir bien avant que le médecin ait pu le guérir, s'occuper de lui. Ben voilà, toi c'est la même chose, ton attitude de vouloir ces réponses à ces questions-là, eh bien tu vas mourir avant de trouver les réponses à ceci. Et le Bouddha n'enseigne pas si l'univers est éternel ou pas. D'ici le Bouddha existera après sa mort ou pas. Pourquoi? Parce que ça ne mène pas à la libération. Ce ne sont pas des questions qui mènent à la libération. Et qu'est-ce que le Bouddha enseigne? Il enseigne la souffrance et la fin de la souffrance. Donc il a une attitude très pragmatique. Il dit, ben, ces trucs-là, ça, voilà, c'est des choses qui ne sont pas utiles pour une compréhension de soi-même, pour le fait de pouvoir dépasser la souffrance et les causes de la souffrance. Donc on a bien ici quand même une attitude pragmatique qui montre que les réponses auxquelles pourra apporter le bouddhisme, le Bouddha ou le bouddhisme, eh bien, ce n'est pas des réponses sur la nature du monde et autres, mais c'est vraiment sur la condition humaine. C'est ce qui fait le cœur du questionnement. Même si par la suite, le bouddhisme a essayé d'apporter des réponses au-delà de ceci, mais quand même, ce qui est l'essentiel, c'est notre condition humaine et comment est-ce qu'on peut se libérer du conditionnement, de la confusion qu'amènent les émotions et autres. Donc le premier niveau dont j'ai parlé, donc c'est d'être perdu dans les contenus, donc dans les histoires qu'on se raconte. On connaît bien ceci. Perdu dans le passé, perdu dans l'avenir, les réflexions, qu'est-ce que je vais faire après la retraite et autres. Ou commencer à faire quelques théories sur le dharma. Voilà. Ah oui, c'est comme ça, etc. Mais oui, on pourrait expliquer comme ça, etc. C'est de bonne guerre, hein. Il faut bien essayer de comprendre, mais bon, on peut quand même s'y perdre, surtout que. Dans la pratique, on essaye quand même de rester plus proche de soi-même que des théories. On écoute les bruits au dehors. Tiens, il y a, voilà, il y a des motos qui passent parfois, il y a différents bruits. Ou bien les bruits des personnes dans la salle. Ou bien alors on refait le menu. Ou l'horaire. Tiens, on pourrait changer ça. Dans le fond, je me demande si on ne ferait pas mieux. Puis la salle, on devrait changer, etc. Donc, ces manières. De se préoccuper par ce qui est à l'extérieur, qui sont aussi tant de manières d'éviter de se rencontrer. Je me rappelle lors d'une retraite qu'on donnait en Italie avec Patricia, c'était quelque chose d'assez marquant. Une femme est venue d'un certain âge, elle a dit, ouais, la semaine prochaine, il y a mon fils qui va venir, il est tellement extraordinaire. Bon, il y avait encore 2 semaines de retraite, alors le fils extraordinaire est venu. Et puis à la fin de la retraite, on l'a vu en entretien, et puis il a une longue liste où il avait tout changé. Alors voilà, non, alors les horaires ça va pas, l'organisation de la salle de méditation ça va pas, le réfectoire ça va pas, etc. Pendant 15 jours, il avait vraiment tout restructuré, donc c'était d'une manière pour lui de ne pas se rencontrer. Je suis sûr qu'il y avait des bonnes idées, hein, parce que pendant 15 jours, quand on imagine, j'imagine que voilà, il était intelligent, qu'il aurait certainement eu des bonnes suggestions, mais à quoi ça servait? Une manière de ne pas se rencontrer. Et ça, on le rencontre quand même assez souvent dans les retraites, surtout au début, et souvent les débutants, comment on explore le lieu, etc., et qu'on s'intéresse, et qu'on a une réticence par rapport à être là et d'être en contact avec soi-même, donc on la projette sur l'environnement. C'est assez fréquent, on pourrait dire. Ou même soi-même, d'arriver dans un nouveau lieu, etc. On n'a pas nécessairement tout de suite envie de se mettre en jeu. Donc voilà, on va commencer à commenter un peu l'environnement. Donc vraiment une manière de ne pas se mettre, pas se mettre en jeu, de ne pas vraiment se mettre soi-même dans ce questionnement, soi-même comme lieu de la méditation. Mais c'est en général comme ça qu'on fonctionne dans la vie quotidienne, donc c'est normal qu'on entre par cette porte-là dans la méditation. Plus attaché à une image du corps que le fait de le ressentir. Et puis ensuite, donc lentement, dans la pratique, on va passer au deuxième niveau où on commence à se tourner vers soi. Mais qu'est-ce qui se passe dans le fond en moi-même? Ah tiens, je suis en train de penser, de commenter. Commence à réaliser ce qui se passe en soi-même. Commenter, je me souviens, ah, j'anticipe. Ah, je suis perdu dans les pensées, dans la somnolence, dans la rêverie. Prends conscience qu'on somnole. qu'on est fatigué. Et là, on est déjà en contact avec soi-même, on n'est plus tourné vers l'extérieur. Donc quand on commence la pratique, très souvent, on vous invite à prendre conscience de l'état intérieur. Comment est-ce qu'on se sent? Est-ce que l'esprit est calme? Est-ce qu'il est agité? Etc. Qui est une manière déjà d'être en contact avec soi-même. Mais dans ce deuxième niveau, nous avons gardé quelque chose de cette attitude d'observation. On est encore en train d'observer ce qui se passe à l'intérieur. Ah, il y a de la somnolence, il y a de l'agitation, il y a... On pourrait dire que le méditant, la méditante est à distance des expériences. Mais prendre déjà conscience, on prend déjà conscience de ce qui se passe, on peut nommer, y a de la somnolence, de l'agitation, de l'irritation. Et le fait de nommer déjà, c'est important, parce que pour pouvoir être en contact plus profond avec ceci, tout d'abord, il faut reconnaître ce dont il s'agit. Si on est dans quelque chose de calme ou de tranquille, c'est important de pouvoir en prendre conscience. Si l'expérience est floue, on ne sait pas vraiment, on ne sait pas comment se disposer. J'ai pris cet exemple un peu comme les lentilles d'un appareil de photo qu'on peut mettre sur la bonne focale, ce qui fait qu'on voit clairement ou autrement c'est flou. Eh bien, d'une certaine manière, tout d'un coup, on commence à pouvoir prendre conscience clairement, tiens, ça c'est de, il y a de l'irritation, il y a de la fatigue, de la lassitude, etc. Donc le fait de nommer, c'est un peu comme si on est arrivé au bon réglage de l'objectif de l'appareil de photo. Ah, c'est ça. Donc c'est un des aspects. Nomme, j'ai mentionné déjà l'autre jour, c'est cette remarque que faisait Bion, le psychanalyste des... psychanalyste anglais, qui s'est beaucoup occupé des enfants, et disait, qui disait que le rôle de la mère, c'est de nommer à l'enfant ce qu'il ressent, pour qu'il puisse l'intégrer. Donc on sent bien qu'il y a une sorte de sagesse spontanée de la part des parents. Un enfant lui dira, ah, mais t'es en colère, t'es triste, etc. Et c'est immensément judicieux. Imaginez qu'un petit enfant, il est débordé par quelque chose, il ne sait pas vraiment ce que c'est, et si la mère ou le père dit, tiens, c'est, ah tiens, tu es en colère, tu es triste, etc., eh bien, ça, d'abord, ça rassure l'enfant, parce qu'il se rend compte que, voilà, c'est quelque chose de tout à fait normal, et puis il peut commencer à s'y disposer. Donc, le fait de nommer, on a ici un bon exemple, mais pour nous, dans la méditation, c'est un peu équivalent, c'est-à-dire quand on peut nommer quelque chose, on peut commencer à se disposer à en faire l'expérience. Parce que quand ce n'est pas clair, et ça a l'air de rien, mais quand on se trompe, on n'est pas clair sur ce qu'on éprouve, c'est très difficile de l'éprouver plus intimement. Et je me rends compte dans ma pratique, pour citer aussi beaucoup de personnes qui enseignent la méditation, qui pourraient décrire ceci, quand on est dérangé par quelque chose, on pourrait dire irritation et frustration, ben, c'est deux choses légèrement différentes, ou impatience. Et si je pense que là, il y a peut-être de l'impatience, et j'essaie d'en faire l'expérience, et si ce n'est pas juste, je vais me rendre compte que je n'arrive pas vraiment à être en contact. Alors que tout d'un coup, je peux réaliser, mais ce n'est pas de l'impatience, c'est de l'irritation. À ce moment-là, je peux commencer à me disposer à en faire vraiment l'expérience. Donc le fait de nommer, ce n'est pas la fin. Mais ça peut être utile. Maintenant, ça ne sert à rien de prendre le dictionnaire des émotions quand il y a quelque chose, de dire voilà, qu'est-ce que ça pourrait bien être, mais laisser, demander à l'expérience de révéler ce qu'elle est. Mais aussi, je crois, ce qui est important, c'est de ne pas se contenter d'une approximation, parce que ça ne joue pas. Il y a vaguement quelque chose. Par exemple, somnolence et lassitude, c'est un peu différent. L'inquiétude, il y a un petit peu de découragement, etc. Somnolence, c'est autre chose. Donc, si on veut se disposer à faire l'expérience de la somnolence ou de la lassitude, c'est deux choses différentes. Donc, il y a là cet aspect de l'investigation dans la méditation, et les textes en parlent fréquemment, il y a cette investigation qui permet de reconnaître ce dont il s'agit. Et ça, c'est déjà une étape importante de pouvoir se mettre en contact avec soi-même et ressentir ce qui se passe. Parce qu'il y a pas mal d'émotions dans le fond qui sont inconfortables, désagréables, et qu'on n'a pas l'envie de ressentir. Donc dans ce cas-là, on va penser autre chose, on va rêvasser, on va se souvenir, on va anticiper, sans même se rendre compte que c'est une stratégie pour éviter d'être en contact avec quelque chose qui est inconfortable. Alors que d'être pleinement conscient d'une émotion, ceci permet vraiment de l'intégrer et de lui enlever son pouvoir de conditionnement, c'est-à-dire son pouvoir de nuisance. Évidemment, ça c'est essentiel. Si la méditation n'avait pas cette possibilité de nous permettre d'intégrer les émotions pour qu'elles ne soient plus des lieux de conditionnement, alors elle ne servira à rien. Pour imaginer, on va méditer, on va être calme, cool, etc. Même des méditations très profondément calmes, mais si elle ne permettait pas de décrédibiliser les émotions, elle n'apporterait rien du point de vue de la liberté. On ne se libérerait pas de ce qui nous conditionne. Comme je l'ai, je crois, mentionné le premier soir, c'est bien, ce sont les chaînes, si on veut, ces émotions qui nous conditionnent. Ce sont les chaînes qu'on va dénouer par la présence attentive. Non pas qu'on a besoin de dénouer, encore qu'on pourrait décrire ceci de cette manière, mais simplement parce qu'on va se rendre compte que c'est une confusion par rapport à ceci qui donne la solidité à ces chaînes. Elles ne sont pas solides en elles-mêmes, c'est nous-mêmes qui leur donnons la solidité par notre confusion. Donc tout le processus méditatif doit se passer autour de ceci. Pas simplement une sorte de quête de calme, même si le calme, la tranquillité surgissent dans le processus méditatif par moment. Par moment parce que l'esprit est stable, à d'autres moments parce que tout d'un coup, on a décrédibilisé quelque chose qui nous conditionnait. Et là, on se rend compte qu'il y a une sorte de calme presque plus profond, ou je dirais plus stable, parce qu'il ne dépend pas simplement de la condition, parce que quelque chose s'est libéré, ou on s'est libéré de quelque chose. Une inquiétude, quelque chose, ou la frustration, comme j'ai décrit, qui tout d'un coup disparaît parce que je me rends compte qu'elle n'a pas lieu d'être, alors elle a disparu. Pas besoin de faire attention ou de la gérer à chaque fois. Ça ne veut pas dire que constamment on arrive à décrédibiliser quelque chose, une émotion complètement qui fait qu'elle ne va plus jamais surgir. Mais dans le processus méditatif, oui, évidemment qu'on va les décrédibiliser, elles ne vont plus surgir. Et si des émotions surgissent, elles ne vont plus nous contraindre. Je me souviens de mon maître de méditation, Dilgokhen Rinpoche, disait qu'il y a des émotions surgissent, des pensées surgissent, autant dans l'esprit d'un méditant, d'une méditante aguerrie, que dans l'esprit d'une personne nouvelle à la méditation. C'est pas que tout d'un coup, les personnes immensément expérimentées en méditation, il ne va plus surgir ni d'émotion ni de pensée, mais ça va être le pouvoir de contrainte de ceci qui va changer complètement. Ça veut dire que la personne expérimentée ne va pas être conditionnée par ceci. On sent bien la capacité de liberté qu'il y a quand une personne peut accueillir une émotion sans la subir. Donc évidemment, c'est plus souhaitable que d'être sans émotion, qui sera un petit peu être sans vie. Le Satipatthana Sutra, dont on a déjà parlé, décrit ceci de manière assez simple. Il dit, quand une personne a l'esprit affecté par la colère, elle sait. La seule chose qu'il dit dans le sutra, quand une personne a l'esprit affecté par la colère, elle sait. Quand une personne a l'esprit affecté par le désir, elle sait, etc. Rien d'autre. Il n'y a pas ensuite, mais alors il fait ceci, cela. On pourrait voir quelques détails, d'être conscient aussi comment ceci surgit, comment ça disparaît. Mais c'est le fait de prendre conscience de ce qui nous affecte, c'est fondamental. Cette manière de dire elle sait, la personne, c'est un peu simple, ça manque un petit peu d'information. Ça semble assez simple de savoir que voilà, je sais que je suis affecté par la colère, mon esprit est affecté par la colère, et alors je reste en colère, ou je sais que je suis dans des angoisses immenses, et alors c'est cool, je sais maintenant. Ça y est, j'ai réalisé la méditation, je sais que je suis dans l'angoisse. Bon, c'est évidemment, le terme je sais reste assez vague. Pour dire que le terme je sais permettrait de décrire le deuxième niveau. Je ne sais pas ce que le Pali donne, mais il est évident que les commentaires donnent une richesse à ce terme. Mais le simple fait de savoir, ça serait le deuxième niveau. C'est déjà quelque chose de savoir ce qui nous affecte. Mais là, on est encore dans l'observation. J'observe mon angoisse, j'observe ma colère, ma frustration. Et là, il y a encore une mise à distance, une tenue à distance, qui est vraiment le fait de la confusion. Et cette confusion, je crois qu'elle est aussi un des éléments essentiels de la méditation, quand on croit que on pourrait observer l'esprit comme on observe un objet, comme je peux observer le gong qui est sur la table ici, que je pourrais observer l'angoisse, l'inquiétude, le calme, la joie de la même manière, en les mettant devant soi. J'observe ma colère, ou la colère, la frustration. Ça, c'est une manière de chosifier la conscience qui est vraiment peut-être le fondement de la confusion. Même si par moments, ça pourrait être une manière judicieuse de gérer certaines difficultés. Alors, je vais prendre des antidotes, etc. Je donne un exemple. Si, ce qu'on fait d'ailleurs naturellement, si je suis en colère contre une personne parce que je vois une situation d'une certaine manière, quelquefois on réfléchit. Je suis en colère, j'ai pris conscience. On réfléchit, on dit oui, mais dans le fond, on regarde la situation sur d'autres points de vue, on dit mais dans le fond, c'est pas de sa faute parce que peut-être il y avait ceci ou cela, elle savait même pas que. Donc on trouve plein de différents points de vue qui fait que finalement la colère s'amenuise ou disparaît parce qu'on a vu d'une manière plus globale la situation. Donc cette manière de réfléchir, ici on considère quand même la colère comme quelque chose, ceci nous permet de gérer des situations. On pourrait dire gérer une angoisse en revenant à la respiration et autres. Ce sont des manières dans l'instant de gérer, mais pas de décrédibiliser les émotions elles-mêmes. Ça ajoute dans l'instant, c'est une sorte de calmant, et quelquefois c'est la seule solution, mais ce n'est pas une manière de dépasser les émotions. Donc ces stratégies qu'on utilise, je crois, naturellement, elles sont judicieuses, mais ce n'est pas le processus méditatif. Il va plus loin, beaucoup plus loin, pour pouvoir se libérer vraiment du pouvoir du conditionnement et des émotions. Et pouvoir les intégrer tant que les émotions restent des choses qu'on peut observer devant soi, séparées du méditant de la méditante, elles ne peuvent pas être intégrées. Comment est-ce qu'on pourrait les intégrer alors qu'elles sont à distance? C'est pas possible. Et tant qu'elles ne sont pas intégrées, elles gardent leur pouvoir de nuire. Donc maintenant, on passe au troisième niveau, où à ce moment-là, on est vraiment en intimité. On demeure dans l'expérience, comme on l'avait décrit l'autre jour dans le sens du terme satipatthana. Voilà ce que certains anglo-saxons, enseignants anglo-saxons, parlent de bare attention. Alors j'essaie de comprendre comment on pourrait traduire ce terme-là sans rester proche des mots, mais on pourrait parler de présence spontanée ou d'attention spontanée. Présence spontanée. Présence spontanée, ça veut dire qu'elle dépend pas de, elle dépend de rien. Elle est là dans sa totalité de l'expérience. Elle n'est pas utilisée pour quelque chose. Elle est là dans sa totalité. Donc présence spontanée, manière de traduire. Attention spontanée, mais bon, pas rester sur les mots. Donc quand on regarde le refrain de ce Satipatthana Sutra, il donne quelques exemples sur le ou des indications sur les niveaux. Il dit ben voilà, dans le refrain, on dit le méditant, la méditante contemple intérieurement et extérieurement. Il reste dans la contemplation intérieure-extérieurement, et les deux. Il contemple le surgissement et la disparition. Surgissement et disparition. Moi ici, je pense que ça nous permet de comprendre comment, par exemple, certaines émotions surgissent. Voilà, j'ai un jugement sûr, c'est pas admissible, on ne devrait pas faire ceci, et ce jugement va amener à de la frustration, de la colère, etc. Et la disparition, quand tout d'un coup ce jugement, je cesse de m'y accrocher, ça disparaît. Donc c'est les causes et conditions qui font que ce conditionnement surgit. Et ça, je crois qu'on le fait tous dans la pratique. Quelquefois on est perdu, quelquefois on se rend compte que voilà, on se perd dans quelque chose en restant dans cette ligne de pensée, nous enferme. Et que si on laisse tomber cette ligne de pensée, tout d'un coup, bien, il y a la disparition de cette émotion. Et la troisième description, c'est voilà, le méditant, la méditante cultive la présence attentive simplement pour la présence attentive. On pourrait dire que c'est là qu'on pourrait parler de présence spontanée ou d'attention spontanée, où l'expérience repose sur elle-même, où par rapport à cette expérience, il n'y a ni avant ni après, il y a juste cette expérience-là, sans distance. C'est là qu'on peut parler de présence avec cette sagesse intuitive. Où l'expérience elle-même, ici méditative, n'est pas pour quelque chose, ni conséquence de quelque chose, elle est là dans sa simplicité. Et c'est dans cette simplicité-là, dans l'instant, qu'on va pouvoir en découvrir la nature. Quatrième ligne de ce refrain, c'est le méditant, la méditante demeure indépendant sans rien saisir. Pour dire que ça, c'est vraiment quand cette présence attentive, elle est là, eh bien, à ce moment-là, le méditant, la méditante demeure indépendant sans rien saisir. Indépendant, ça veut dire libre. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la personne ne dépend de rien du tout. Elle n'est pas conditionnée par quelque chose. C'est vraiment une expérience de liberté. Dans certains textes, on parle de libération momentanée. C'est une expérience de libération, une expérience de liberté. On pourrait dire une expérience de nirvana à cet instant-là. Pas dire que tous les problèmes ont été résolus, mais dans cette expérience-là, il y a vraiment une expérience de liberté parce qu'on demeure indépendant sans rien saisir. Il y a un sutra qui décrit un peu ceci, voilà, que je voudrais évoquer. Dans ce sutra, c'est intéressant, personne vient poser une question au Bouddha, c'est le Bouddha qui appelle les moines, qui va les moines et les nonnes, et qui va leur dire quelque chose. Bon, on est en Inde, voilà ce qu'il nous dit, il dit... Tout ce que les Brahmas, les Indras, les Yamas ont vu, entendu, alors il parle ici de tout ce qui est perceptible dans l'univers, hein, cette manière de parler des Brahmas, Indras, Yamas, on pourrait dire on pourrait citer les castes en Inde ou les prêtres, etc. Tout ce que les êtres ont vu, entendu, etc. Je l'ai aussi vu entendu. Mais bon, Bouddha, il veut vraiment marquer qu'il n'y a pas de déficience. Il dit, ça serait faux de dire que je n'ai pas vu. Enfin, il parle de lui à troisième personne, ça serait faux de dire que le Tathagata n'a pas vu, entendu, etc. Tout ce qui est, ce qu'on peut voir, entendre, etc. Donc voilà, il marque vraiment cette, commence par cette remarque. C'est pas que tout d'un coup il perçoit plus le monde, que le monde disparaît, que dans l'éveil du Bouddha tout disparaît. C'est pas ça, pas une sorte de néant. Donc il y a toute cette apparition du monde, mais voilà ce qu'il rajoute qui est important. Mais quand le Tathagata, donc à nouveau il parle de lui à troisième personne, quand il voit, il ne crée pas un objet vu, un objet à voir et un sujet voyant. Il n'y a pas cette distance je vois, qui est cette distance d'observer encore l'objet, etc. Il reste dans l'expérience elle-même. Il y a justement cette intimité. Il ne saisit pas ce qui est vu étant ceci ou cela. Il ne crée pas de concept. Il reste simplement dans l'expérience de la vision. Donc à ce moment-là, crée pas un objet vu ou quelque chose à voir, ni un sujet voyant, c'est pas je vois. Il y a juste cette expérience de la vision. Parce que tous les autres, cet objet vu, ceci à voir ou le jeu, tout ça sont des concepts. C'est des choses qu'on rajoute sur l'expérience elle-même. L'expérience, elle reste dans. C'est pour ça que il y avait cette citation de bare attention. Moi, je parle de présence spontanée ou expérience spontanée. Le fait qu'il reste là simplement, le Tathagata, dans l'expérience elle-même, sans s'en distancer, sans non plus la saisir comme étant ceci ou cela. Là, on est vraiment dans le troisième niveau, qui évidemment est le niveau le plus riche, et qui, lui, ce niveau-là, donc, amène à la libération. Où est déjà la libération? La libération, en tout cas, momentanée. Alors, évidemment, il cite les autres quand le Tathagata entend. Quelque chose, il ne crée pas quelque chose entendu, un objet à entendre, ni un sujet entendant. Il ne sépare pas ceci en sujet-objet, il reste dans l'intimité de l'expérience. Donc il cite évidemment tous les cinq perceptions, la pensée également, pour ajouter les émotions d'ailleurs. Il ne solidifie pas l'émotion. Prenons inquiétude par exemple, il ne crée pas une inquiétude en tant qu'objet, ni un sujet inquiet, je suis inquiet, je suis inquiète. Non, il reste dans cette expérience de l'inquiétude, sans distance, sans identification non plus, sans vouloir saisir ceci par là, je suis inquiet, je suis inquiète. Il ne porte pas de jugement, il n'y a pas d'élaboration. Donc tout le processus méditatif tend vers cette simplicité d'être là en chaque expérience. Il ne manque jamais des éléments dans la méditation, jamais. Dire, ah, mais il faudra qu'on ait la suite, etc. On va venir l'année prochaine parce que, voilà, on vous dira la fin et si vous venez l'année prochaine, on vous donnera la suite. Comme ça, on est sûr d'avoir beaucoup de monde l'année prochaine. Les indications sont simples. Il s'agit simplement d'être dans cette qualité d'expérience. Il n'y a pas de choses à faire, il ne faut pas savoir comment. Ce qu'on apprend, ce qu'on développe, c'est tout ce qu'on fait pour éviter d'être là. La manière dont finalement on s'agrippe ici ou là, etc., on résiste. Un maître indien disait, jusqu'à la fin, on résiste à la libération. Comme si tout le chemin, on était là en résistant à la libération. Alors que c'est un processus naturel. Naturel, ça ne veut pas dire que c'est simple. Hein, dire, pourquoi je n'ai pas compris ça avant? Allez, Charles, débarrasse. Maintenant, on va méditer parce que j'ai compris. Moi, je veux la libération. Non. Évidemment, on a ces habitudes de résistance. On a tout ce conditionnement qu'elle a et qui vient un peu nous embrouiller, on pourrait dire. Mais le processus lui-même, il est simple. C'est simple. Il n'y a pas d'astuces qu'on ne connaîtrait pas. Il y a juste trop d'astuces qu'on utilise. Il s'agit de les reconnaître et se dire, bon, ben, si je laisse tomber ceci et cela, quelquefois ça demande un petit peu de courage, d'ouverture. Et à ce moment-là, peut découvrir peut-être ces moments de liberté inconditionnée, parce que les conditions sont justes, parce qu'on est disponible à ce moment-là. Je parle ici de nirvana momentané, parce que la plupart du temps, il y a quand même encore une sorte de contexte qui fait qu'on va retomber dans nos travers, mais certainement un peu moins, avec moins de conviction. Donc dans ce sens-là, c'est ces constructions qu'on rajoute dans l'expérience. Le Tathagata ne crée pas un objet vu ou objet à voir, le gong par exemple, ni un sujet voyant, je vois, ni d'ailleurs tout jugement sur la chose. Le texte dit, il ne crée pas de jugement, c'est ou ça n'est pas. C'était encore une affirmation, il ne dit pas c'est ou ça n'est pas, ça existe ou ça n'existe pas. Il ne tombe pas L'attitude méditative à ce niveau-là ne tombe pas dans une élaboration, dans un jugement. On reste dans cette qualité-là d'expérience, pure expérience, si vous voulez, qui est hors conditionnement. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas plus évaluer les choses. Bien sûr, il faudra les évaluer pour fonctionner. Mais on ne les prendra plus comme des valeurs absolues. Voilà, donc ces trois niveaux, à nouveau, il est important de les connaître pour ne pas s'accrocher à un niveau pensant que c'est ceci, surtout à s'accrocher au niveau 2 en pensant que c'est en observant les émotions qu'on va pouvoir les dépasser, mais sans forcer non plus le processus, comme je l'ai dit. D'abord, on reconnaît peut-être ce qui nous affecte, c'est déjà une bonne chose, et puis lentement, on essaie de découvrir qu'est-ce que c'est. Parle de l'inquiétude, par exemple, on observe l'inquiétude. Un objet, j'observe l'inquiétude, mon inquiétude, etc. Mais pour moi, ce qui est extrêmement fascinant, c'est qu'est-ce que c'est qu'une présence inquiète? Ça veut dire quoi une présence inquiète? Comment c'est cette manière d'être une manière d'être inquiète? On sait, je suis inquiet, etc. On voit bien ce que ça donne, on est un peu agité, c'est pas bien, etc. Mais qu'est-ce que c'est qu'une présence inquiète? C'est une drôle de question. Qu'est-ce que c'est qu'une présence inquiète? Qu'est-ce que c'est qu'une présence irritée? Qu'est-ce que c'est qu'une présence impatiente? Ça veut dire quoi? Une présence impatiente. Une présence qui désire. Je vous donnerai pas la réponse, c'est à vous de la trouver dans la pratique, vu que la réponse, on peut la trouver que dans la pratique. Voilà, donc ces quelques remarques au sujet des trois niveaux comme possibilité. Se rendre compte de chaque niveau et qu'aucun niveau est faux, mais qu'il ne s'agit pas de s'y arrêter. Et puis finalement, peut-être que parfois on peut faire l'expérience du dernier niveau de la pratique pour découvrir ces moments où on a l'impression qu'on est vraiment dans la pratique. On le sent bien d'ailleurs, les personnes demandent comment on reconnaît. Je crois que quand on est vraiment dans cette qualité-là, c'est évident. On ne se pose pas de question, est-ce que j'y suis ou pas? Non, il y a cette qualité-là. Voilà, donc quelques remarques pour parler de ces trois niveaux. Et puis, évidemment, nous allons revenir sur certains aspects. Ici, c'était un peu un survol. Peut-être revenir sur les pensées, revenir sur les émotions et d'autres aspects pour essayer d'amener un petit peu plus de clarté. Voilà, donc maintenant, il y a un peu d'exploration de la méditation marchant.